Philippe Nanzer avec RTS Première.
Et du football pour débuter ce Flash Info, puisque l'équipe de Suisse féminine affronte en ce moment la France, c'est à Nancy. Une rencontre qui compte pour la Ligue des Nations, Grégoire Ogier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est plutôt compliqué pour la Suisse ce soir.
Totalement, cette équipe de Suisse est menée 3-0 après une mi-temps, 20 premières minutes catastrophiques pour cette sélection helvétique. Dès la 11e minute, c'est Matteo qui a pu ouvrir le score après une énorme boulette de la gardienne helvétique, Livia Peng, qui a voulu dribbler l'attaquante française. Elle s'est totalement manquée, permettant à Clara Matteo donc de glisser ce ballon dans les buts vides. À la 16e minute, c'était 2-0 par De Almeida sur une magnifique reprise consécutive à un corner. Et enfin, c'était 3-0 la 19e minute sur une réussite de Sandy Baltimore, très bien servie par Diani. Il a fallu attendre la 40e minute pour voir la première frappe helvétique dans cette partie. 3-0 donc à l'issue des 45 minutes en faveur de cette équipe de France.
Merci Grégoire et on vous retrouve à 23h. Sachez que ce match est à suivre en images, c'est sur RTS2. Les autorités valaisannes indiquent ce soir que la Lonza s'écoule désormais sur toute la longueur du cône des Boulies à Blatten dans le Haut-Valais. Le barrage de Ferden qui avait été vidé par mesure de précaution se remplit à nouveau, mais les vannes devront être ouvertes en cas de besoin. Une surveillance active de la zone sinistrée est en cours et de nombreux équipements de mesure ont été mis en place pour prévenir toute dégradation des situations. Des milliers de manifestants, parmi lesquels de nombreux étudiants, ont défilé ce soir dans le centre de Belgrade, la capitale de la Serbie. Les revendications sont toujours les mêmes, à savoir le président serbe Aleksandar Vučić doit convoquer des élections législatives anticipées. Depuis 6 mois, la Serbie est secouée par une vague de manifestations suscitée par l'effondrement meurtrier en novembre dernier, de l'auvent d'une gare tout juste rénovée à Novi Sad, dans le nord du pays, un effondrement qui avait fait 16 morts. Athlétisme, Audrey Vérot a frappé fort ce soir. La fribourgeoise de 21 ans a amélioré de plus d'une demi-seconde son record de Suisse du 800 mètres, record qu'elle détient depuis septembre dernier. Audrey Vérot a parcouru la distance en 1 minute 57 secondes et 25 centièmes lors du mémorial Irena Czefzinska en Pologne. La météo, eh bien, avec un week-end qui s'annonce d'ores et déjà très chaud, il y aura du ciel bleu, il y aura du soleil demain et dimanche, mais des averses ou des orages isolés seront toutefois possibles en fin de journée sur des reliefs, des averses ou des orages qui pourront même déborder en plaine durant la nuit. Côté température, le thermomètre va grimper probablement jusqu'à 28, voire 30 degrés.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Il est mondialement connu et reste pourtant un mystère.
He is the most famous artist in any point of art history.
Jusqu'au 29 juin à Beaulieu, Lausanne, plongez dans l'univers de l'un des génies de l'art urbain avec The Mystery of Banksy, A Genius Mind. Plus de 200 œuvres, graffitis, photos, sculptures et vidéos pour tout savoir sur Banksy, artiste peintre et graffeur né à Bristol. Véritable icône artistique. Plus d'informations sur mystery-banksy.ch.
Nobody has been that famous and yet invisible.
Retrouvez l'actualité culturelle dans Vertigo, du lundi au vendredi à 17h sur RTS Première et sur l'application Play RTS.
Depuis le début de la semaine, toutes les formes de transition, ou presque, se sont invitées dans cet espace où la parole est à vous durant les 2 prochaines heures. Une semaine en forme de transition, plus exactement sous le signe des transitions de toutes sortes que, grâce à vous, nous avons déclinées aussi bien au singulier qu'au pluriel. Tant de transitions ponctuent nos existences. Des transitions qui, parfois, nous obligent à sortir de nos zones de confort, à négocier des virages serrés ou à opérer des changements radicaux, en tout cas à bifurquer et à emprunter des voies très différentes de celles dans lesquelles on avait jusque-là trouvé nos marques. Je vous le disais lundi, si on se réfère à un bon vieux dictionnaire, au-delà de la définition, ce qui est intéressant, c'est la nuance faite entre une transition brusque, brutale, et une transition que l'on peut qualifier de degré intermédiaire, d'étape intermédiaire, un passage progressif entre deux états, entre deux situations, dont les enjeux ne nous sautent pas forcément aux yeux sur le moment, dont on ne réalise pas toujours les conséquences. Que ce soit le passage de l'adolescence à l'âge adulte, du statut de mari à divorcé, de celui d'employé à chômeur, de bien portant à malade, ou le contraire, les transitions jalonnent nos vies sans nous demander si elles sont les bienvenues, souvent subies, mais également souvent choisies. Elles s'inscrivent forcément un jour ou l'autre dans notre quotidien. Venez partager avec nous les transitions que vous avez vécues dans n'importe quel domaine. Venez nous raconter l'importance qu'elles ont eue dans votre parcours, les souvenirs qu'elles vous laissent. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus et les bienvenues dans cette émission. Vous pouvez vous exprimer comme bon vous semble jusqu'à minuit. Et pour nous joindre, eh bien c'est facile, il vous suffit de composer notre numéro de téléphone gratuit, le 0800 80 70 70 0800. 80, 72 fois un numéro au bout duquel tous vos témoignages sont accueillis avec beaucoup d'intérêt. Que vous ayez envie d'aborder la suggestion de la semaine ou de parler de toute autre chose, n'hésitez pas à venir à notre rencontre ce soir encore en toute liberté et en toute amitié. Et à propos de transition, j'ai en mémoire ces quelques mots de Gustave Flaubert, extraits de son Dictionnaire des idées reçues, publié en 1913, 33 ans après sa mort. Une idée reçue qui n'a pas pris une ride. Époque, la nôtre. Tonner contre elle, se plaindre de ce qu'elle n'est pas poétique, l'appeler époque de transition, de décadence. La ligne de cœur vous ouvre le sien et j'espère que vous laisserez parler le vôtre. Bienvenue à vous, nous sommes vendredi.
Même si le monde tourne à l'envers, à contre-temps de Fred Astaire, et que les murs dressent des frontières, même si les réserves d'atropine au fin fond de la piscine et que les roses pleurent leurs épines.
Même si partout gagne la haine, si les chiens envahissent la plaine, que tu sais plus comment qu'on freine. toujours vivant. Toujours vivant. On est toujours vivant. Toujours vivant. On est toujours vivant.
Et vivant, le duo Bambour et Brizida à l'instant pour mettre le contact à cette émission, une émission dans laquelle eh bien toute l'équipe vous souhaite la bienvenue. On vous souhaite de bons moments en notre compagnie, en tout cas des moments partagés. Daniel Do répond à vos appels au 0800 80 70 70, 0800 80 70 deux fois. Stéphanie Jovanovic signe le programme musical et Isabelle Barthes réalise cette émission. Une émission faite pour vous, mais surtout faite par vous toutes et vous tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver, d'accueillir vos témoignages jusqu'à minuit. Merci en tout cas d'écouter RTS Première. La parole est à vous ce soir encore pour venir... pour venir nous dire tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous avez dans le cœur ou encore sur le cœur, à vous de voir, à vous de dire. Et pour ce faire, eh bien, rien de plus simple, par SMS par exemple, vous tapez cœur, vous laissez un espace et vous envoyez votre message au 939 939. Par WhatsApp, vous pouvez nous écrire des messages plutôt courts que je puisse facilement les lire à l'antenne au bout du 076 318 96 49. Si vous préférez nous envoyer un mail, facile, là aussi, vous pouvez écrire plus longuement, vous tapez ligne de cœur, tout attaché à rts.ch, et puis bien sûr, notre numéro de téléphone gratuit, faut-il le rappeler, le 0800 80 70 70, 0800 80 70 deux fois. Un numéro auquel Daniel vous répond avec beaucoup d'amitié pendant les deux prochaines heures. Tout est ouvert, je vous le disais, mais cette semaine, néanmoins, nous vous suggérons un vaste thème. Hein. Transition, la transition, les transitions. Par exemple, cette transition qui consiste de passer de l'état d'adolescent à celui d'adulte, du statut de mari à divorcé, d'un travail au chômage, de père aidant. On a eu cet exemple dans la ligne de cœur récemment, père aidant en alcoolologie à addictologue. D'homme à femme, les transitions de genre se sont également invitées au fil de la semaine. Beaucoup de transitions, il est vrai. On continue volontiers ce soir à répondre à toutes ces questions que pour certaines d'entre elles vous avez posées. On continue à prendre le temps pour emprunter cette piste si vous en avez envie. Et puis pour parler, ça dépendra vraiment de vous, de toute autre chose. C'est ce qui fait, pour moi en tout cas à ce micro, l'intérêt de la ligne de cœur tous les soirs quand on est avec vous, c'est qu'on ne sait jamais vraiment bien où on va aller, sur quel chemin vous allez nous emmener. Et ce soir encore, eh bien on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que si vous nous avez suivis cette semaine, eh bien ça ne vous a pas échappé. La transition, évidemment, souvent présente, alors entre santé et maladie, entre maladie et santé. La transition de genre également, je le disais il y a quelques instants. Les soins palliatifs, une espèce de transition entre la vie et la mort. Vivre après un AVC, vous en avez parlé. Alors là, une somme de transitions lentes, des transitions qu'il faut accepter, on n'a pas le choix. C'était un témoignage assez fort du reste que celui de l'auditrice qui s'exprimait par rapport à ça. Et puis, poursuivre sa route. Poursuivre sa route après une période transitoire, par exemple, continuer à vivre après avoir été abandonné par sa femme, là aussi un témoignage très touchant. La transition, bien sûr, entre un divorce ou le célibat et le remariage ou le mariage. Et puis, mercredi soir, cette soirée forte, que faire après l'école? Il y avait plusieurs invités en plateau, il y avait des jeunes qui s'exprimaient. Que faire après l'école, hein? Cette transition de l'école à la vie professionnelle, pas toujours simple, on l'a entendu mercredi. Et là, pour le coup, une vraie transition, parce qu'elle coïncide à la fois avec un passage de la scolarité ou d'une scolarité à autre chose, qui peut être un travail, qui peut être une autre forme d'étude plus tard, et puis également cette transition souvent entre l'adolescent et l'adulte, ou presque, entre l'enfant et l'adolescent. Donc beaucoup de transitions à cet âge-là. Si ça vous parle ce soir, si vous êtes concerné directement par cela, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, si vous, vous êtes les parents, par exemple, les grands-parents de jeunes, pour qui ce sujet parle, résonne, et bien là aussi, n'hésitez pas à composer le 0800 80 72 fois. Encore juste deux mots sur ces transitions dont vous avez parlé. Passer de la rue à un appartement, pas simple, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Quitter ce statut de SDF pour se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus organisé. Les transitions, nous disiez-vous, nécessaires pour trouver un équilibre. Et puis pour récupérer une formidable énergie pour avancer dans la vie. Hein. Une transition, deux transitions, plusieurs transitions, la vie finalement n'est faite que de ça. Et puis enfin, un déménagement. Les déménagements, c'est vrai qu'on en a peu parlé, ça aussi, une transition que tout le monde a vécue une fois ou l'autre, qui oblige en tout cas à s'adapter à de nouveaux horizons. Voilà donc pour l'essentiel, à grand trait de ce que vous avez dit depuis lundi. J'oublie évidemment beaucoup de choses, mais on sera encore là demain si je faisais la liste totale, et je pense que vous endormiriez là pour vous donner un petit coup de fouet. Et bien dans la foulée... Non Isabelle, c'est pas le moment de piquer du nez dans la foulée. Eh bien tiens, précisément, c'est Isabelle Barthes à qui on doit cet extrait. L'extrait de l'intervention de Laure, qui témoignait cette semaine dans l'émission au micro de Jean-Marc. Laure qui nous racontait le quotidien de ses enfants touchés par le trouble du spectre de l'autisme, notamment le parcours scolaire de sa fille, un parcours plutôt douloureux.
Il y a une différence essentielle, c'est les difficultés scolaires que Clara a et que son frère n'a pas eu et n'a pas, parce qu'il n'a pas de 10, et pour lui, c'est beaucoup plus facile. Et il est en apprentissage, et c'est pas parce qu'il est maintenant en apprentissage qu'après, il trouvera un emploi stable. On est bien d'accord. Les TSA, voilà, il n'y a aucune étude qui a été menée, mais on sait très bien que les DSA et emploi, ça va des fois pas de pair, quoi.
Clara, vous le dites à 15 ans, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore arrivée au bout de sa scolarité obligatoire ou c'est déjà terminé?
Non, elle est en 10e année.
Et comment elle-même vit-elle cela? Cette hospitalisation dans un service fille, comment elle le vit?
Oui, alors, c'est, au départ, c'était elle qui l'a demandé. Elle voyait très bien que ça allait plus, c'était plus possible pour elle ni pour nous, donc ça n'a pas été facile, hein. On l'emmène, on la dépose devant la porte et on lui dit au revoir, et on sait que pendant les 3 ou 4 premiers jours on n'a aucun contact avec elle, donc on le sait d'avance bien sûr, mais c'était dramatique, quoi. D'ailleurs elle m'a dit, mais tu m'as mis à la poubelle. C'est elle-même qui m'a dit, mais tu m'as mis à la poubelle. Donc, Et là, maintenant, ça fait 3 semaines qu'elle y est. Donc, on voit quand même une différence, on voit des progrès. Et c'est là qu'on se dit que oui, on a pris la bonne décision, même si elle n'était pas facile. Je pense qu'à 15 ans, on se pose beaucoup de questions. Il y a aussi la relation avec son papa qui n'est pas facile. Et là, c'était le trop-plein, avec du harcèlement scolaire, avec cette différence qui est de plus en plus frappante et qui se voit, et qui pour elle était quelque chose qu'elle avait du mal de vivre. Ah, c'est clair que c'est pas facile, et puis c'est justement la période où on est censé faire un choix professionnel, et là on en est encore loin. Alors elle a que 15 ans, donc on peut encore prolonger la scolarité, mais c'est tellement douloureux cette scolarité que je veux pas encore lui infliger une année ou deux de plus, si on a le choix de faire autre chose, de faire autrement. Avec encore des problèmes de santé associés qui nous font nous poser la question dans quelle branche professionnelle elle pourra se diriger pour s'épanouir, pour que ça joue avec ses problèmes de santé. Et là, on est vraiment dans une période où on peut encore pas dire dans quelle branche elle pourrait vraiment... on perd pas espoir, c'est clair. Mais voilà, on est dans un canton, on n'est pas dans le canton de Vaud. Ici, on est dans le canton du Jura. Et les moyens sont quand même autres que la ville de Lausanne, par exemple. Alors, l'école est super réactive, super... Mais le service d'enseignement est, est un milieu de des problèmes des élèves, et l'assurance invalidité rentre pas en matière pour le moment parce que la nouvelle, enfin c'est pas une nouvelle loi, c'est pas un droit, c'est une mesure, c'est-à-dire que c'est à l'approbation, c'est à la tête du client, et les mesures professionnelles sont à partir de 13 ans. Et nous, quand elle a eu 13 ans, on s'est dit on fait la demande parce qu'on sait que ça va être difficile. Et là, elle a 15 ans et on nous a refusé trois fois les mesures. Donc on est seul, quoi. On se sent pas soutenu.
Est-ce que vous avez réussi à ne pas mettre trop de pression sur vos enfants? Parce qu'à un moment donné, quand on a la pression, on se dit mais il faut que ça bouge. Comment vous avez pu vivre ça?
Alors, c'est pas sur eux que je vais mettre la pression. Je vais mettre la pression sur l'école, sur l'assurance invalidité, sur les gens qui doivent prendre leurs responsabilités. Mais oui, nous, on a, en tant que parents, c'est un truc qui peut m'empêcher de dormir. Parce que je vais retourner le problème dans tous les sens. Et oui, on se pose plein de questions, quoi. Ben, à partir du moment où je pense qu'on a des enfants qui sont un peu à part, on a de toute façon cette pression. Ouais, que ce soit à l'école, que ce soit avec les copains, que ce soit... C'est super. L'intégration, enfin, c'est même pas l'intégration, de mettre des enfants différemment des classes, mais si on n'a pas les moyens derrière, c'est presque de la maltraitance, j'ai envie de dire. Parce que leurs besoins, ils sont pas pris en compte. Et ça commence à partir de là. Quand une enseignante fait lire un roman de 150 pages à une dyslexique qui n'arrive même pas à lire la première page et qui doit en plus faire un résumé devant la classe, pour moi, c'est juste de la maltraitance, quoi. Et on a beau essayer d'expliquer, on se heurte à un mur, quoi. Alors moi, je ne suis pas prête à baisser les bras, même si des fois, je me dis... Ouais, il y a ras-le-bol parce qu'elle a ici, après il y a ça. Après, le grand, il a 18 ans, donc on lui coupe ses prestations parce que soi-disant, il a des troubles psychiques, alors qu'on sait très bien que le TSA, c'est pas des troubles psychiques. Donc, il faut faire des recours, il faut faire des papiers. Et des fois, je me dis, mince, quoi. Et puis, je me dis non, parce que c'est pas mon caractère. Et j'estime que, en fait, on n'a rien demandé, et eux non plus. Et on en a pris pour perpète. Nous parents comme eux. Donc j'estime que voilà, on doit se battre pour eux, quoi. J'espère juste qu'elle soit heureuse, qu'elle trouve sa voie, peu importe dans quelle branche, mais vraiment qu'elle s'accepte telle qu'elle est et finalement que ça en fasse une force et qu'avec ça elle arrive à se construire un projet professionnel et voilà, quoi. Peu importe dans quelle branche, peu importe combien elle gagne, peu importe à quel taux elle est capable de travailler, on s'en fiche. C'est juste qu'elle trouve sa voie. Et en fait, en tant que parent, si on voit que nos jeunes ils sont à la dérive, c'est de pas hésiter à demander de l'aide, quoi. Et c'est pas attendre qu'il y ait une tentative de suicide ou qu'il y ait quelque chose. Il faut être attentif et savoir passer la main à des professionnels quand nous, on est au bout de ce qu'on peut proposer.
Quel beau témoignage que celui de Laure. Alors c'était juste un court extrait qu'on entendait maintenant de ce témoignage que Laure nous a offert cette semaine. Un témoignage dans lequel elle parle, c'est vrai, de ce trouble du spectre de l'autisme, de la difficulté que certains enfants rencontrent dans leur scolarité. Ils sont même assez nombreux. Il en a été beaucoup question mercredi soir. Et là aussi, c'est un sujet que vous pouvez prolonger avec plaisir. Vous pouvez amener votre éclairage, votre regard, si ça vous inspire, si ça vous concerne de près ou de loin. Sachant encore une fois que tout est ouvert, mais que ce sont les transitions cette semaine qui nous ont occupés, les transitions de vos vies, j'allais dire. Et j'ai reçu un très joli message, je vais prendre le temps de vous le lire maintenant. Pour les autres, ça attendra un tout petit peu. Mais celui-là, d'entrée de jeu, ou presque, en ce début d'émission, il me semble très intéressant. C'est Catherine qui nous l'a envoyé, en rappelant que dans ce bas monde, finalement, tout est soumis à l'impermanence, hein, de la naissance à la mort. Est-ce que la vie n'est pas faite juste que de transition, dit-elle. Et puis elle cite une auteure, Camille de Peretti, qui a écrit un très joli livre, L'inconnu du portrait. C'est inspiré d'un tableau du peintre Gustav Klimt, cet inconnu de ce portrait. Bref, ce qui est intéressant, c'est cette citation qui résonne fortement avec ce qu'on a dit cette semaine, signée Camille de Peretti. Et merci Catherine de me l'avoir envoyée parce que je suis ravi de pouvoir la partager avec celles et ceux qui nous écoutent ce soir. On se souvient facilement des premières fois de la vie, mais les dernières fois ont cela de terrible qu'elles ne s'annoncent pas. Voilà, j'étais... oui, je suis content de vous livrer, grâce à Catherine, cette citation signée Camille de Peretti, parce qu'elle est... Elle est vraiment dans le droit fil de beaucoup de choses qui ont été dites depuis le début de la semaine. Une semaine, j'aime vous le redire, le vendredi qui est loin d'être fini. On attend vos appels 0800 80 70 70 avec bonheur, avec beaucoup d'intérêt. Mais là tout de suite, est-ce que peut-être un petit peu de, je sais pas, un petit peu de musique nous ferait du bien? Bah oui. Et là, j'ai le sentiment qu'on est parti en compagnie d'Étienne Dao. Attention, une bouée pour lui s'il vous plaît, un homme à la mer.
Saisi par ton regard chaud, ton regard chaud. Oh, oh, alors que l'on se voudrait fort et fier, fondre comme les glaçons au fond de nos verres, boire la nuit entière pour ne plus se taire. Je pense à toi la moitié du temps, à ton regard clair, ton regard clair. Oh, 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 aveugle et plein de toi vers la lumière, quand le soleil incendie la mer, j'ai aimé ton mystère.
Ça se finit comme ça, Monsieur Dao, pour ponctuer ce début d'émission, cette ligne de cœur où nous sommes ensemble jusqu'à minuit au bout du 0800 80 70 70 pour parler transition, pour parler de tout ce que vous voulez. Bonsoir Dominique, bienvenue à vous dans la ligne de cœur.
Oui, bonsoir.
Vous êtes à l'antenne, je suis ravi de vous accueillir. Je ne sais pas si ce sont les transitions qui vous inspirent ou alors tout à fait autre chose. Qu'est-ce que vous souhaitez partager avec nous?
Non, effectivement, c'était la transition dans le sens large, surtout professionnel, disons, de l'enfance jusqu'à la retraite. Mmh. Voilà, je suis entre guillemets un jeune retraité qui va avoir 67 ans dans quelques jours, qui est encore actif. Et puis, quand je vous écoutais, je me disais, mais c'est quand même fou quand on parle de notre école primaire, et puis de l'évolution, etc., puis toute cette transition dans la vie professionnelle. Mais peut-être avant ça, je viens d'écouter la dame qui vient de parler tout à l'heure, je crois, du Jura.
Oui, Laure.
Une fille, voilà, Laure, mm-hmm. une fille, etc. J'étais dans la formation professionnelle. Et je peux qu'encourager cette dame, il faut rien lâcher, c'est pas facile. Mm-hmm. On a beaucoup de choses en Suisse qui existent, mais c'est vrai que c'est quand même pas facile administrativement. Mais il y a de la place, il faut garder du courage, il y a de la place pour beaucoup de choses. Mais malheureusement, voilà, je ne ferai peut-être pas plaisir à beaucoup de monde, mais c'est vrai que l'administration, elle est lourde. Voilà, elle peut décourager beaucoup de monde.
Oui, c'est
voilà,
juste.
C'est ce que je voulais dire.
Non, je retiens juste, je voulais relever ce que vous dites. Hein. C'est une phrase que parfois on entend dans l'émission, mais qu'est-ce que c'est bien de le répéter, Dominique, et merci à vous de le redire. Rien lâcher, ne rien lâcher dans des cas comme celui de Laure et tant d'autres. Hein. On a eu plusieurs témoignages dans des domaines différents d'ailleurs, hein. Mais là en l'occurrence sur ces jeunes qu'il faut accompagner parfois de manière, c'est un peu rude, c'est vrai, et puis il y a l'administratif, vous avez raison, qui peut être lourd à gérer également.
Surtout cette partie-là.
Oui,
pour les parents, c'est vrai que c'est un chemin qui est compliqué, puis c'est normal, justement, ça fait partie de la transition. Si on revient à la transition, on n'a pas choisi, et puis c'est tout. Mais si derrière, on vous met des bâtons dans les roues, qu'on vous complique la vie, franchement, ça devient... Ouais, je ne veux pas dire dégueulasse, mais on se comprend.
Ouais, très compliqué, oui. Puis pour les parents, là, dans le cas de Laure, il y a tout l'affect, en plus. Enfin, il y a tout le côté affectif,
oui,
évidemment,
qui rentre en
ligne de compte. Ouais.
Et à la base, ce que je voulais vous parler, c'est vous dire, ben voilà, je suis d'un milieu, entre guillemets, modeste, simple, normal. Je suis fils d'agriculteur, aujourd'hui j'ai 67 ans. Mm-hmm. J'ai fait une scolarité normale, mais voilà, sans être non plus un leader, un champion à l'école et tout, mais beaucoup de soutien de la part des parents, beaucoup de compréhension, etc. Et pour finir, finalement, les 10 dernières années, j'étais directeur d'un centre de formation pour des apprentis. Mmh. Mais entre deux, il s'est passé beaucoup de choses. Oui, j'ai reçu un bel apprentissage, j'ai eu des formations, j'ai continué des formations continues, ce qui m'est arrivé jusque-là. Mais jamais rien n'a été donné. J'ai perdu deux fois mon travail. Une fois, l'entreprise a fait faillite, l'autre a cessé ses activités. Ben voilà, on prend un coup sur la tête et tout. Donc cette transition-là, vous savez, aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, dans les années 80, 90, 80, 90, on parlait de plan de carrière. On entend moins ça aujourd'hui.
Hein. Non, c'est vrai.
Quand on dit, voilà, bon, les plans de carrière. Mais cette carrière, oui, on peut l'influencer. Oui, on peut. On doit l'influencer. On doit montrer de l'intérêt, de l'envie. On doit être ouvert, puis se former, continuer à se former. Mais il y a des aléas de la vie qui font qu'on ne peut pas aller contre. C'est comme ça. La santé, les choses, la malchance, une entreprise qui fait faillite. Mais ma foi, quoi, il faut se relever, il faut reprendre. On repart un peu plus bas. J'ai peut-être la chance d'être une personne qui voit plutôt le verre toujours à moitié plein qu'à moitié vide.
Mmh.
Non, mais je crois que tout le monde comprend ça. Mais
oui, mais c'est...
Je pense que... Oui, malgré les accrocs, il faut y aller. Puis à la fin, on se dit, waouh, finalement, c'était cool, quoi, c'était bien. Je ne sais pas si mon développement de cette transition de l'école primaire jusqu'à cette fin de carrière, ben voilà, rien n'a été donné, mais on doit se la construire soi-même. Et ce que je veux surtout dire aux gens, c'est n'attendez pas des autres, n'attendez pas de la société, n'attendez pas de... je sais pas, de votre entreprise, etc. Oui, provoquez, soyez là, soyez présent, soyez attentif, Et puis répondez présent quand il y aura quelque chose qui se passe. Pas toujours demander, puis attendre, puis me dire « Oh, mais on n'a pas pensé à moi ». C'est un peu facile aussi. Je suis peut-être un peu dur, mais...
Non, non, c'est très intéressant ce que vous dites. Et puis, ça en tout cas, alors ça fait écho à des choses qui ont été évoquées, peut-être justement, ben notamment dans cette soirée de mercredi. Je peux juste faire une parenthèse, Dominique, et vous demander, je ne sais pas si vous êtes d'accord de le dire, mais je pense, quel type d'apprentissage vous avez fait? Vous étiez dans quel domaine?
J'ai fait en mécanique et en électronique, donc dans les métiers techniques.
Très bien, oui. Ce qui est souvent très utile si l'on se... Bah vous dites qu'après vous êtes devenu directeur d'un centre de formation pour apprentis, mais ce sont des apprentissages
sur les dernières années,
ouais, qui permettent de comprendre un peu tous les autres, hein, parce que finalement, il y a quand même des liens et des ponts entre tous ces apprentissages.
Hein. Exactement. Puis là, j'ai vu des jeunes qui ont des troubles de l'attention, des hyperactifs, tous les 10, etc. J'en ai rencontré passablement. C'était environ 200 apprentis hein, quand je gérais.
Oui, c'est beaucoup. Ouais.
Mmh. Honnêtement, dans la plupart de ces cas, du moment qu'on est aussi informé, ben ça c'est aussi un problème. Imaginez, et je peux vous dire que c'est vrai, hein, le jeune il finit son école obligatoire, il n'y a rien dans ses cahiers, dans ses certificats d'école, il n'y a personne qui dit ben, « tiens, c'est un TDA, tiens, c'est un 10, X, Y, Z, etc. » Mais pourquoi on ne transmet pas ça? J'ai eu été à des séances romandes, etc. On ne doit pas stigmatiser. Mais d'un autre côté, où je comprends, mais d'un autre côté, c'est faux. Pourquoi le jeune qui arrive en apprentissage, si on sait qu'il a un dyslexique, ben voilà, c'est pas difficile à gérer un dyslexique. Il faut simplement faire attention aux formes de documents, des choses comme ça qu'on lui donne.
Ouais, c'est
quand on ne sait pas ça, eh ben, il faut attendre 6 semaines, 2 mois, pour dire aux parents, mais je m'excuse, votre enfant il a un problème. Ah, mais je n'osais pas vous dire, écoutez, Dominique, parce que j'avais peur qu'il ne trouve pas un apprentissage. Mais on comprend la maman quand elle vous dit ça. Et vous voyez, on se retrouve dans des situations, et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de ces jeunes qui ont des troubles, qui ont réussi leur apprentissage, même des apprentissages en 4 ans qui ont un haut niveau. Mais ils ont besoin d'un peu d'accompagnement, un peu de mesures particulières. Et ils trouvent du travail derrière. C'est aussi le message que je veux dire. N'ayez pas peur. Croyez pas que l'industrie ou que les entreprises ne veulent pas ces cas. Vous me permettrez, particuliers. Hein,
Bien sûr. Oui.
Mais c'est pas
différent,
vrai.
Différent, oui, c'est juste.
Mais il faut le savoir, il faut le dire. Et l'AI doit apporter un complément. Un complément. Pas, on ne veut pas des personnes à 100% l'AI. Mais si effectivement quelqu'un n'est peut-être pas 100% en guillemets rentable, hein, parce que quand même la réalité de l'économie, mais s'il y a un X% qui permet que cette personne ait un travail, mais tout le monde est heureux à la fin. Tout le monde.
Tout ce que vous dites, Dominique, ça implique une chose. J'ai le sentiment que vous l'avez fait. En tout cas, en vous entendant, on se connaît absolument pas.
Oui.
C'est le dialogue, ce sont les mots, c'est la parole finalement. C'est-à-dire dire
Exactement.
Les choses, communiquer et dire les choses. Et c'est ce qui coince très souvent. On a pu l'entendre dans le témoignage de Laure. Hein. Là, on en avait qu'un extrait, mais elle le disait plus avant l'autre soir. Ce manque finalement de communication entre les enseignants ou les directeurs d'une école ou peu importe. Et puis l'enfant, le jeune ou sa famille. Et là, vous mettez le doigt sur quelque chose de fondamental, c'est de jamais oublier. Ça semble tellement évident, hein, c'est un peu une lapalissade, mais il faut le redire, quoi. Cette communication qui est tout à fait essentielle, sans laquelle souvent on va dans le mur, alors que simplement avec quelques mots, une bonne conversation à un moment donné, on pourrait régler beaucoup de choses. Ouais.
Je crois que vous avez bien résumé, mais vous savez, les structures font qu'on ne doit pas stigmatiser, on ne doit pas mettre une étiquette sur un enfant. Puis, on peut comprendre, d'accord, on ne va pas... Mais la réalité du terrain, si je peux dire comme ça, ou la réalité de la vie, c'est qu'à un moment donné, si le jeune, il a un trouble X, Y, Z...
Il faut pouvoir le nommer.
Il
faut pouvoir le nommer, vous avez raison.
Pourquoi pas le transférer, cette information, et dire aux parents, ne croyez pas que toutes les entreprises, oui, il y a peut-être X% d'entreprises, un petit pourcentage qui vont avoir peur. Mais la grande majorité des entreprises vont être ouvertes, vont comprendre, mais vont surtout mettre des mesures en place pour accompagner ce jeune. Le but étant d'avoir quelqu'un de qualifié, même avec des limitations, mais de qualifié. Et ça, c'est difficile. La machine, elle est grande, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, oui.
Quand en première année, il faut le deuxième semestre pour que l'AI ouvre de nouveau le dossier alors qu'il était fermé à l'école obligatoire, passe sur une mesure, des mesures d'accompagnement, c'est quand même triste, puis ça prend une année pour avoir le truc. Il a déjà fini la première année. C'est quand même fou.
En vous écoutant, je me dis c'est dingue, parce qu'il y a vous qui savez de quoi vous parlez, qui êtes dedans, qui étiez dedans, et vraiment vous le dites très clairement. Et puis il y a toutes les règles autour, il y a tout le carcan autour qui emprisonne, qui empêche, et puis peut-être parfois, vous l'avez dit à demi-mot, mais vous avez raison, ce politiquement correct qui peut avoir du bon par certains côtés, mais peut aussi avoir provoqué des choses pas si géniales que ça, hein. Ne pas pouvoir... il s'agit pas de stigmatiser ou pas, là, il s'agit juste d'appeler, de mettre un nom sur quelque chose de manière un peu claire et un peu simple, et qu'est-ce que ça peut aider à faire avancer. Et là, c'est compliqué, on l'entend bien, c'est compliqué. Voire des fois, pas possible, hein, pas... comment dire, vous vous mettez dans une situation, difficile, si vous le faites.
Oui, et puis, ce que je voudrais dire, faut pas nommer un faux espoir, parce qu'à un moment donné, si l'handicap est trop lourd, etc., on peut pas non plus
aller... Bien sûr.
N'importe quoi, faut pas. Mais il y a quand même toute cette zone au milieu, là, un peu grise, etc., où il y a des moyens d'accompagnement. Ils existent, ces moyens d'accompagnement. Et souvent, quand on... Je peux vous assurer, les 10 dernières années que j'ai fait, il faut dire aux parents, voilà, ça existe. Il y a des mesures d'accompagnement à l'école, il y a des mesures d'accompagnement en entreprise, dans les cours inter-entreprises, etc. On peut faire un CFC avec des mesures d'accompagnement. Mais il faut que ce soit identifié. Mmh. Et comme on ne veut pas l'identifier, pas stigmatiser, on se retrouve dans une situation qui est, vous voyez, qui est trouble, qui est triste. Je comprends quand une maman me dit, j'ose pas dire que mon fils est 10. Parce que j'ai peur qu'ils ne trouvent pas une place d'apprentissage. Mais c'est de cacher le problème qui va être révélé en deux mois. Mmh. Il va apparaître, ce problème.
Mais, plus d'écoute, voilà, plus de dialogue, plus de partage à ce niveau-là, ce serait souhaitable. Oui,
mais vous savez, vous rentrez dans tout le système global de protection des données, de tout ce qu'on veut. Hein. Ouais, je n'ai pas la solution. Tout le monde veut bien faire.
Oui, c'est clair.
Mais ce que j'ai envie de dire aux parents qui ont ça, et surtout quand j'ai entendu Laure, je crois que vous l'avez dit, hein, il faut s'accrocher, il y aura à un moment donné quelqu'un qui va répondre présent, qui va trouver une solution, etc. Mais c'est dur, je comprends tout à fait que c'est dur. Donc, ça peut être compliqué, on peut avoir en face des gens qui suivent un règlement, vous comprenez ce que je veux dire ?
Bien sûr.
Suivent un protocole.
Bien sûr.
C'est comme ça, madame, je suis désolé, ou monsieur. Le règlement dit ça. Et puis, on oublie un petit peu tout ce qui est autour. Voilà.
Ah mais c'est passionnant, hein, Dominique. Vraiment, merci d'avoir pris le téléphone ce soir, parce que ce que vous dites pour les parents concernés, peut-être plus que pour les jeunes évidemment. Mais là, je pense aux parents, hein, comme Laure qui s'exprimait par rapport à ça. Ça fait sens et c'est vraiment très intéressant. Il y a peut-être aussi cette dimension du temps qui est compliquée parfois. C'est-à-dire que dans ce que vous avez dit, par moment, quand vous dites tout à l'heure ne pas attendre que ça tombe, hein, provoquer les choses, bien sûr, c'est aussi une affaire de temps. Hein, c'est un peu comme dans la transition. Finalement, il faut donner un peu de temps, comme on dit. Il faut aussi accepter que les choses prennent du temps. Ça se fait pas juste comme ça, avec un claquement de doigts. Il faut avoir une forme de, sans doute, de patience et de grande patience selon. Dominique,
qu'on doive défendre des choses, c'est aussi normal. C'est pas à la société de répondre à tous les petits problèmes immédiatement, de trouver la solution A, B, C, D pour chaque chose. Quand ce que je dis là, faut pas non plus tomber dans l'autre sens en disant, mais moi, j'ai plus rien à faire comme parent, de toute façon, la société va s'occuper de tout. Non, il y a un dialogue à avoir, vous êtes d'accord? Il faut trouver des solutions ensemble. On peut pas être juste non plus passif et puis s'attendre à ce que la société va régler tous nos problèmes.
Moi, je trouve que dans tout ce que vous dites, et je suis pas là pour donner mon avis encore une fois, mais il y a beaucoup d'équilibre. En tout cas, c'est très équilibré et ça tient fortement la route. Hein. J'avais envie de vous demander, Dominique, ce sera peut-être le mot de la fin. Quel est, si vous deviez, alors c'est toujours compliqué quand on doit en retenir qu'une. Je sais que c'est un côté un peu réducteur, mais j'aime assez l'exercice. Est-ce qu'il y a comme ça une transition dans votre vie, une transition forte? Une période de transition qui vous reste en mémoire. C'est peut-être celle-là, hein, celle que vous venez de vivre entre la vie active et la retraite, je ne sais pas, ou une autre. Est-ce qu'il y a comme ça, quand vous pensez à cette idée de la transition, un moment personnel, un moment de vie que vous n'oubliez pas, qui, j'allais dire, qui dépasse les autres, je ne sais pas, mais en tout cas qui, qui reste en vous.
Oui, oui, je pense. Je pense que c'est... j'ai commencé à travailler vers 22, 23 ans, là. Et dans les premières années de travail, j'ai senti que j'étais considéré, que j'étais... que j'avais une certaine valeur, que j'étais content de mon travail, que voilà, on m'a proposé des formations, il y a des choses comme ça. Alors que l'école obligatoire, l'apprentissage, la fin moins, mais j'ai plutôt vraiment le sentiment de subir, d'être faible en orthographe, etc., de plutôt voir les aspects négatifs. Et tout à coup, là, j'ai senti qu'on me considérait, qu'on me donnait des projets, qu'on me donnait des responsabilités. Et ça, ça m'a encouragé à continuer à me former, parce que là aussi, c'est important. Continuons, quel que soit le niveau qu'on a au départ. Continuons, continuons. La vie ne s'arrête pas. Mmh. Et ça, ça m'a donné une force, que ce soit les langues, que ce soit techniquement, des choses comme ça, des cours de management d'entreprise que j'ai fait plus tard. Mais c'est parce que j'ai rencontré aussi, et ça, je vous assure, c'est important, j'ai rencontré quelques personnes dans ma vie, dans ma carrière professionnelle, qui ont été géniales. Des gens qui ont parlé simple, qui ont dit, écoute, ça c'est ta force, ça moins, essaie d'aller là-dedans, pourquoi tu irais pas peut-être te former ou ça, etc. Et là, j'ai eu deux, trois fois des gens qui m'ont, aussi quand j'ai perdu mon travail, et c'est grâce à ça que je suis arrivé à la fin comme directeur. Mais c'est une chance, mais il faut aussi être à l'écoute, il faut aussi pas se croire en dessus de tout, puis dire, j'écoute ces gens, puis là-dedans, je prends ce que j'ai envie. Et ça, franchement, cette transition, pour moi, elle était là. Mmh. Écoutez aussi les bons conseils des bonnes personnes.
Je vais retenir deux mots avec vous, mais il y en aurait tant d'autres, hein, cher Dominique. C'est ouais. La parole et puis les rencontres, finalement. La parole et les rencontres, ça peut beaucoup faire, hein, dans un parcours de vie. Ça fait beaucoup même. Ouais.
Beaucoup.
Ah, merci d'être venu. Merci vraiment.
C'était
une très bonne rencontre, hein, cette rencontre radiophonique. D'accord. Avec vous ce soir. Je peux vous le dire. Revenez quand vous le sentez, quand vous le souhaitez.
C'est la première fois, mais c'était cool. C'est sympa. Merci.
Ah, bah, j'espère que c'est pas la dernière.
J'en
sais rien. Allez, oui, c'est vrai. On est sûr de rien. Vous avez raison. Allez.
Bonne soirée.
Belle
merci.
Nuit. Bonne merci soirée, Dominique.
Merci
à vous. La ligne de cœur, ça continue avec vous, bien sûr, toujours au bout du 0800 80 70 70, ça c'est pour le téléphone, et puis les WhatsApp 076 318 96 49. Monsieur David Bowie, Ashes to Ashes. Moi, ça me rappelle personnellement beaucoup de choses. Vous, je ne sais pas, de l'autre côté du poste, comme on dit, un grand standard dans tous les cas de figure. Et là, eh bien, sans transition, c'est Nadia que j'ai le plaisir d'accueillir dans cette ligne de cœur. Bonsoir Nadia, bienvenue à vous.
Bonsoir, merci.
Ravi de vous avoir en ligne. Je sais que vous êtes interviewé il n'y a pas longtemps. On n'aura pas beaucoup de temps, hein, jusqu'aux infos de 23h, mais enfin quand même, là, une petite dizaine de minutes, c'est sympathique. C'est pour prolonger peut-être un peu ce que vous avez déjà évoqué à propos de ce thème que nous vous suggérons cette semaine, hein, les transitions, la transition, avec une petite vidéo que vous nous avez envoyée sur WhatsApp.
Oui.
Qui fait sens. Eh bien, je vous laisse en dire peut-être vous un mot et prolonger précisément cette piste que vous avez entamée l'autre soir.
Ben, en fait, il y a plusieurs façons de faire la transition et je pense que ça dépend un petit peu de tout un chacun. Mmh. Moi, par exemple, ben, je parle le silence. Je respecte le silence des gens, qui n'est pas toujours facile à endurer, mais pour vraiment faire cette vidéo, quand je l'ai vue, pour moi, ça m'a parlé tout de suite. Je me disais, tiens, mais ça, c'est le thème de la ligne du cœur, au fait, de la semaine. Et c'est vrai que ben, ces transitions sont vraiment, alors on peut les appeler autrement, mais moi, je les appelle un peu des piliers, que soit on arrive à monter ou pas. Et des fois, il faut beaucoup de temps et on se dit des fois qu'on n'arrive pas. Et c'est ce que je disais à une copine ce matin, quand on est allé boire un café, c'est que c'est vers la fin de la quarantaine que par plusieurs thérapies différentes, que j'ai réussi à me prendre la main et à me dire « Ok, maintenant, ces maltraitances, ça suffit. » Mais ça allait loin, c'est-à-dire que je passais plusieurs heures à avoir faim et je ne mangeais pas. Et là, il y a eu un déclic à la fin de la quarantaine et c'est très tardif quand même. Et c'est pour ça que moi, en fait, je vais inviter les gens à ne pas désespérer s'ils trouvent le temps long, mais j'essaie plusieurs fois. Et oui, je sais, mais au fait, des fois, ça vient quand on s'attend le moins, en fait.
Oui, on revient à cette idée du temps qui m'est si cher et qu'on aborde si souvent dans la ligne de cœur parce que ce temps long, court, Dominique en parlait hein, indirectement, là, il y a quelques instants, il est absolument essentiel. Et il a du sens quand on survit à tout. C'est un peu le début de votre vidéo. Hein. Tu as survécu à tout, tu t'en rends pas compte. Survivre à tout, c'est quelque chose qui vous parle aussi, j'ai le sentiment.
Mais, oui, alors, totalement. Parce que moi, c'est quand j'ai une de mes anciennes thérapeutes qui m'a appelée la survivante ou la guerrière. Enfin, que tout d'un coup, parce que pour moi, ça me semblait tellement... il y avait pire que moi, comme on dit. Mais c'est vrai que... Et moi, j'avais l'impression d'être ratée, vous voyez, parce que... Ben voilà, j'ai à 51 ans, j'ai pas d'enfant, j'ai pas été mariée, enfin bref, la carrière professionnelle, bon, c'était un peu cas, mais je veux dire, j'ai fait un petit peu des jonctions pour aider les parents dans cette transition en attendant des places en crèche, etc. Mais voilà, c'est pas, comment dire, quand les autres observent ma vie, pour eux, c'est pas tellement une vie réussie. Cependant, j'ai une de mes... Et ça, vous voyez, ça dépend du point de vue, vous voyez. Et cependant, ben, une thérapeute m'a dit, mais madame, avec tout ce que vous avez affronté, tout ce que vous avez... tout ce que vous avez bravé, tout ce que vous avez enduré, là, simplement le fait d'être debout, mais rien que debout, et simplement de, même si c'est pas longtemps, même si c'est 9 mois, même si c'est 6 mois, que vous êtes allé travailler, que vous êtes levé le matin, ben, chapeau madame. Alors que d'autres personnes auraient le point de vue, ah, purée, ouais, mais franchement, elle a toujours que des petits boulots. Vous voyez, le point de vue est différent.
Mais selon Nadia, mais ce que vous dites, c'est incroyable que vous parliez juste de ça à la seconde. Ça me choque un peu, en même temps, mais dans le bon sens, quand vous dites, j'ai pas forcément une vie réussie. Alors, restez à l'écoute, hein. Après les infos de 23h, nous aurons un auteur. On va parler sans doute de ça avec lui également. Réussir sa vie ne veut rien dire. J'espère qu'il nous le rappellera. Mais on a parlé de ça la semaine dernière avec, je vous dis tout ça de mémoire, hein, et j'espère qu'elle ne me fait pas défaut, mais avec Janine, me semble qui disait réussir sa vie, accomplir sa vie plutôt, hein, parce que cette idée de réussir, ça supposerait qu'on puisse la rater, et non, on ne rate jamais sa vie, on la vit,
on la vit tout simplement. Et c'est vrai que quand vous dites ça, non, votre vie, vous l'avez forcément réussie puisque vous êtes en train de la vivre. C'est une forme de réussite en fait, de la vivre, hein, tout court.
Alors oui, en fait, tout simplement, ben, de se lever le matin. Alors peut-être je vais faire sourire certaines personnes, mais moi, une fois un matin, je me suis arrêtée devant que je ne connaissais pas, je ne trouve pas très érudite, mais il y avait une fleur qui était que j'ai trouvée mais d'une beauté extraordinaire et qui était toute simple pourtant dans la nature. Mais j'ai fait un gros plan, j'ai fait une photo. Tellement que voilà, moi, ça m'a surpris cette beauté, au fait. Et d'autres personnes, peut-être, c'est une fleur dans la nature, quoi. Vous voyez, en fait, on apprécie les choses différemment. Quand on a vécu des choses avec une telle intensité au niveau de la bassesse et j'en passe, en fait, pour finir après, on s'émerveille comme les enfants arrivent à s'émerveiller. Je serais curieuse de lire ce livre à part ça, moi, de c'est quoi réussir sa vie. En fait, il y a des stéréotypes. Il y a ceux qui disent, voilà, en fait, Maria, t'es là, j'ai tout. Et il y a ceux qui regardent différemment, comme je pense ce monsieur qui a écrit ce livre. Mais chacun a un cheminement différent.
Parler, ouais. C'est pas du tout sur ce sujet, mais vous verrez, je dis pas encore qui c'est, enfin si je pourrais le dire, mais on a eu tellement de problèmes pour le joindre là, en début de soirée, c'est mon petit côté superstitieux, je touche du bois, c'est-à-dire mon genou là, mais je vous le dirai juste après mon intro de 23h. Voilà, mais vraiment Nadia, ce que vous dites, ça fait non seulement sens, mais c'est comme le témoignage de Dominique. Qu'est-ce que c'est constructif, qu'est-ce que c'est positif et ça nous fait du bien d'entendre de belles choses et des choses intelligentes, comme vous êtes en train de les dire, vraiment, parce que on est souvent là en train d'évoquer des choses dures et c'est beau quand vous proposez aussi une solution qui peut aller avec, vous voyez ? Ou en tout cas, une prolongation un peu dans le sens de la solution, oui.
Alors, je trouve un petit peu, solution, je trouve un petit peu tardivement, hein, parce que c'est pas comme ça, photographier une jolie fleur. Moi, il y a 30 ans en arrière, ça ne me disait rien. Après, on n'avait pas les mêmes appareils non plus. Mais je veux dire, on apprend à voir les choses un peu différemment. Parce que la vie nous a tellement mis en bas qu'au fait, c'est comme un combat. On se dit, mais OK, le destin, tu veux me faire trouver la vie moche, mais moi, je ne veux pas. Moi, je veux la trouver jolie. Et par exemple, prenez un caillou. Faites une fois le test d'un caillou. Prenez un caillou, n'importe lequel. C'est moche, c'est pas beau un caillou. Ah, il y a des cailloux du bord du lac. Hein.
Ah, il y a des beaux cailloux.
Mais vous prenez.
Un moche, d'accord.
Mais après, mettez-le dans l'eau et voyez la différence de ce caillou quand il a absorbé l'eau et quand il est sec. Moi, par exemple, à ma thérapeute, j'ai donné un caillou, j'ai fait le test avant, j'ai trouvé que c'était magnifique la différence. J'ai fait. Mettez-le vers la plante et faites un test et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et en fait, elle m'a dit, mais waouh, c'est incroyable. À chaque fois que j'arrose ma plante, cette pierre, elle devient mais très jolie. Et là, vous voyez, c'est une question de perspective. De nouveau, on voit une pierre qu'une autre personne pourra dire, mais c'est banal, qui va même l'ignorer. Mais un enfant va la prendre, cette pierre, va dire, mais elle est jolie. En fait, je vais la donner. Une fois, je l'ai fait à un autre thérapeute, je l'ai donné aussi. Et au fait, quand on change de perspective, quand on lui met de l'eau dessus, elle a un autre éclat, en fait.
Eh bien, merci, chère Nadia, d'être venue arroser cette émission avec tant de jolies choses ce soir. Vraiment, merci beaucoup à vous. Mieux vaut tard que jamais, je retiens ça. Et puis, mieux vaut court que trop long. Finalement, ce sera notre adage ce soir. Mais c'était un vrai bonheur de vous accueillir. Vous revenez quand vous le voulez, Nadia.
Avec plaisir.
Je vous souhaite une très belle nuit. Et puis, à bientôt, peut-être.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Belle soirée à vous. Belle soirée à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez ce soir. 0800 80 70 deux fois reste le bon numéro pour nous joindre, le 939. Ça, c'est du côté des SMS. Et puis pour les WhatsApp, ça n'a pas bougé d'un poil. 076 318 96 49. La transition. Les transitions, ou alors tout ce que vous voulez, tout à sa place ce soir dans cette émission. On se réjouit de vous retrouver toujours dans la ligne de cœur sur RTS Première, juste après les informations de 23h que voici.